Bonsoir. Merci beaucoup d'abord à Olivier Abel, à Mino, à toute l'équipe qui a organisé cette nuit, cette soirée. Alors, pour me présenter, je m'appelle Thalès, oui, comme le théorème, mais rassurez-vous, on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui, voilà, donc on va parler de fraternité. Et je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, voilà, ici à Toulouse. Et mon accent me dénonce, moi je suis brésilien. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on me dit de parler de fraternité, je pense à une citation que j'aime beaucoup. Victor Hugo, il a écrit en 1875 dans Le droit et la loi, « Liberté, égalité, fraternité ». Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort. Nous sommes libres par l'homme. Et ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, on les sait très bien, sont inscrits au fronton de nos mairies, scandés dans nos discours. Mais en fait, comment vivons-nous ces mots, vraiment? Liberté, voilà, l'égalité, nous avons appris à revendiquer, à les revendiquer ces mots. Mais et la fraternité? Elle semble parfois un peu fragile, moins évidente. Pourtant, à mon sens, c'est justement la fraternité qui donne du sens à la liberté et à l'égalité. Alors, mes amis, quelques-uns ici parmi vous ont déjà entendu cette histoire que je vais vous raconter. D'autres ont déjà entendu quelques fois d'ailleurs. Donc, je compte sur l'indulgence gratuite de ceux qui l'ont entendu. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Une petite anecdote, en fait, pour illustrer, en fait, cette approche de la fraternité. J'ai un ami qui est allé visiter un pays nordique. En arrivant au pays, bon, il arrive dans une station de métro, il voit qu'il y a des gens qui passent, voilà, d'un côté par les portiques, il y a le guichet, les portiques et tout, et de l'autre côté, il y a d'autres qui, voilà, il y a un couloir ouvert, un passage libre, et donc il y a des personnes qui passent par ce passage libre. Et bon, mon ami touriste, il connaît pas très bien ce système, il voit une dame, il l'arrête, il lui dit: écoutez, madame, je voulais savoir comment ce système marche-t-il. Je vois qu'il y a des gens qui passent d'un côté, d'autres qui passent de l'autre côté, et du coup, je voulais savoir ce que je dois faire. Et la dame lui répond: écoutez, monsieur, c'est très simple. Si vous avez de l'argent, vous allez au guichet, vous payez votre ticket, vous passez par les portiques. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas d'argent, bah, vous passez par le couloir ouvert, le passage libre. Et mon ami, bien sûr, voilà, un peu perplexe, il se dit: oui, d'accord, mais moi, écoutez, c'est intéressant et tout, moi je suis touriste, j'ai de l'argent dans mes poches, et si moi je décide de, voilà, moi qui a de l'argent dans mes poches, si moi je décide de passer par le couloir ouvert, que peut-il m'arriver? Une bonne question. Et la dame lui répond calmement: monsieur, pourquoi le feriez-vous? Et cette question, pour moi, résume tout. Elle ne repose ni sur la peur d'une sanction, ni sur un règlement, mais sur une évidence morale. Lorsque nous pouvons faire le bien, pourquoi choisir autre chose? Nous avons parfois tendance à croire que la fraternité doit être imposée, régulée, encadrée. Mais dans cette scène, dans cette petite histoire, elle apparaît dans sa forme la plus pure. Une confiance donnée, une responsabilité assumée, un oui. Et bon, pour les philosophes qui sont là, je pense que ce dialogue illustre bien ce que Emmanuel Kant appelle l'impératif catégorique. On fait ce qu'on peut parce qu'on peut le faire. Agir uniquement selon une règle que nous souhaiterions voir adoptée par tous. Si nous pouvions tous passer sans payer, plus personne ne paierait. Et le système, bien sûr, effondrerait aussi. Mais le véritable fondement de l'éthique n'est pas la conséquence. À mon sens, c'est plutôt la conviction intérieure qu'un certain comportement est juste. Et la dame du métro n'a pas répondu « Vous serez sanctionné », mais plutôt « Pourquoi le feriez-vous ? » Et cette dame a bien renversé la logique. Ne pas profiter du système n'est pas une contrainte. C'est un choix naturel lorsque l'on comprend la valeur du bien commun, la valeur de la fraternité. Et évidemment, si on applique ça à la fraternité, elle cesse d'être une option parmi d'autres. Et la fraternité devient un réflexe. Et là, je mets un peu ma casquette de pasteur quand même. L'apôtre Paul, il écrit dans son épître aux Romains, « Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. » Là, c'est le plus important. « L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Rien, ne rien devoir à personne sinon l'amour. Et à mon sens, encore une fois, c'est exactement ce que la dame du métro a exprimé. La fraternité n'est pas une dette ni une obligation. C'est plutôt un état d'esprit, un état d'être. Nous avons connu l'amour. Nous sommes capables d'aimer. Pourquoi alors agir autrement? Et là, pour conclure, nous sommes souvent tentés de voir la vie un peu comme un jeu d'opposition, individu contre collectif, même liberté contre égalité. Mais la fraternité brise cette logique. Elle nous rappelle que nous sommes liés, non par contrainte, mais par état d'esprit. Lorsque nous voyons quelqu'un dans la détresse, la vraie question n'est pas « suis-je obligé d'aider ?» mais plutôt « pourquoi ne le ferais-je pas ?» Lorsque nous avons les moyens d'être justes, honnêtes, solidaires, la vraie question n'est pas « que vais-je perdre ?» mais plutôt « pourquoi choisirais-je autre chose ?» Je reviens à Victor Hugo. Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et la mort, libres par l'âme. Et alors, pour terminer un peu comme une prédication dans un temple, faisons de cette fraternité non plus une belle idée, mais plutôt une réalité vécue. Non plus, voilà, un mot gravé sur les frontons, mais plutôt une main tendue, un regard qui relève, un cœur qui s'ouvre aux autres. Car, ayant connu l'amour, en étant capable d'aimer, pourquoi choisirions-nous autre chose ?